Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
Les préparatifs de Noël s'intensifient au Vatican. Jeudi matin, un sapin de 25 mètres a été installé au milieu de la place Saint-Pierre. À ses pieds, c'est une crèche économique qui est en cours de construction. Elle est financée par une région du sud de la péninsule, la Basilicate, et non plus par le Vatican. Financer l'avortement est une affaire privée. L'initiative populaire continue de créer la polémique en Suisse. Le projet vise à supprimer la prise en charge par l'assurance maladie des coûts d'une interruption de grossesse. Les évêques suisses se sont déclarés contre ce projet. Le blocage politique continue à Madagascar. L'église malgache dénonce sévèrement la classe politique responsable d'une véritable spoliation des richesses du pays. La République démocratique du Congo, préoccupation majeure de la Caritas Internationalis. L'organisation humanitaire est une des plus actives dans la région du Nord Kivu. Nous entendrons son président, le cardinal Maradiaga. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. Noël approche à grands pas, il est des signes qui ne trompent pas. Ainsi, le traditionnel sapin de Noël de la place Saint-Pierre est arrivé ce jeudi matin, aussitôt fixé dans son socle de béton. Il côtoie désormais près de l'obélisque, au centre de la place, le chantier de la crèche monumentale en construction déjà depuis plusieurs jours à l'abri des regards. Car si l'illumination du sapin sera inaugurée le 14 décembre, la crèche, elle, ne sera dévoilée que 10 jours plus tard, le 24, veille de Noël. Des précisions avec Bernard de Cotigny.
Le sapin, vieux de 150 ans et mesurant plus de 25 mètres de haut, nous arrive cette année de la région du Molise, d'un petit village qui attendait depuis 8 ans cet honneur. Car au fil des années, il a été offert par différentes régions d'Italie, c'est un privilège. Mais au-delà de la péninsule, il sera aussi venu de Belgique, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne et même d'Ukraine, pour ne citer que quelques pays, mais jamais de la France. La nouveauté nous vient cette année par contre de la crèche, pour la première fois offerte, elle aussi, par la région de la Basilicate dans le sud de l'Italie. Ce sera donc une crèche économique pour le Vatican, a tenu à préciser Mgr Chaka, secrétaire général du gouvernorat, qui pour l'occasion tiendra une conférence de presse le 13 décembre. D'un style iconographique traditionnel, peut-on lire dans un communiqué, cette crèche encore en phase d'installation s'inspire du paysage culturel de la région de Matera et ses habitations troglodytes. Une topographie qui rappelle tellement les lieux de la Terre Sainte. Comment ne pas se souvenir que Matera a servi maintes fois de décor de cinéma pour des films racontant la vie de Jésus et que le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les personnages de la crèche, plus d'une centaine d'éléments, sont en terre cuite, habillés d'étoffes faites main. Le tout devrait occuper un espace de 150 mètres carrés. C'est le 31 décembre que Benoît XVI s'y rendra pour un moment de prière, après avoir célébré les premières vêpres de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, dans la basilique Saint-Pierre.
Bernard de Cotigny.
Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grüßt nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum.
Ce jeudi matin, Benoît XVI a reçu en audience le président de la République d'Allemagne. Joachim Gauck et le pape se sont entretenus sur divers sujets, précise une note de la salle de presse du Saint-Siège, notamment sur la crise économique en Europe et la contribution que l'Église peut offrir à cet égard. Les défis dans un monde globalisé et sécularisé, un thème également évoqué par les deux hommes. L'entretien s'est déroulé dans un climat cordial, témoignant notamment des bonnes relations entre les deux États. Le président allemand s'est déclaré par ailleurs impressionné par la vivacité du pape, son attitude directe et non triomphaliste, précisant que Benoît XVI était par ailleurs bien au fait de sa biographie. En Suisse, l'initiative populaire « Financer l'avortement est une affaire privée » lancée il y a plus d'un an continue de créer des remous. Le projet qui a recueilli 110 000 signatures en juillet 2011 vise à supprimer la prise en charge par l'assurance maladie des coûts d'une interruption de grossesse. Rejetée par le Conseil fédéral suisse en mai dernier, l'initiative devrait être soumise au peuple vers la fin 2013. La conférence épiscopale suisse réunie du 3 au 5 décembre pour sa 298e assemblée ordinaire s'est prononcée en défaveur de cette initiative, réaffirmant avec force leur engagement pour la vie, de la conception jusqu'à la fin naturelle. Les évêques jugent positif que le projet populaire combatte la normalité institutionnalisée de l'avortement, mais reléguer l'IVG à la sphère privée n'apporte en soi aucune solution. Écoutez Mgr Félix Gmür, évêque de Bâle.
On s'est prononcé, comme toujours, pour la protection de la vie, dès leur conception jusqu'à la mort, disons, naturelle. Voilà, ça c'est la position de fond dont on ne peut pas rien changer. Puis, l'initiative joue sur d'autres niveaux. Il y a un niveau symbolique qui dit « nous sommes contre l'avortement ». Mais il y a le niveau juridique qui, justement, ne lutte pas contre l'avortement. Et ça, c'est un peu le texte piégé de cette initiative. Je veux dire que les chrétiens, les fidèles, sont tenus à discerner et puis à voter selon leur conscience. Toujours avec l'arrière-fond, protection de la vie. Surtout, l'avortement, ce n'est pas jamais une affaire privée, mais c'est une affaire qui concerne toute la communauté des fidèles, donc l'Église. Deuxièmement, si les cours sont privatisés, à quoi ça sert? On n'évite pas vraiment l'avortement, c'est seulement payé par une autre personne. Mais ce que nous voulons, c'est éviter ces avortements. Donc il faut opérer un changement, il faut trouver d'autres voies pour que l'avortement ne soit plus vu comme une option.
Un entretien réalisé par Manuela Affigi. L'embryon humain a le droit d'être protégé. Les évêques français l'ont répété avec force dans un communiqué publié ce jeudi, portant la signature de l'archevêque de Rennes. Dans ce texte, Mgr Dornelas remet en cause l'adoption mercredi par le Sénat d'une proposition de loi visant à mettre en place un régime d'autorisation sur la recherche sur l'embryon. Un vote choquant, écrit l'archevêque de Rennes. Les sénateurs remettent ainsi en cause le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Mgr Dornelas se demande pourquoi un tel changement est opéré sans même qu'un véritable débat ait eu lieu. La loi de bioéthique promulguée en juillet 2011 exige pourtant ce débat. Le Sénat ne l'a pas jugé utile. Un vote d'autant plus choquant, insiste le prélat, que dans les tests pour les nouveaux médicaments, la communauté scientifique internationale privilégie désormais les cellules souches reprogrammées découvertes par les Nobel, Gurdon et Yamanaka. Le blocage politique continue à Madagascar. Depuis plus de 3 ans, le pays attend des élections et l'affrontement entre les deux présidents, Ange Ratzoel et Marc Ravalomanan, ne fait qu'accroître les tensions. Il y a quelques jours, l'église malgache a publié une lettre pastorale dans laquelle elle dénonce sévèrement la classe politique, responsable d'une véritable spoliation des richesses du pays et dont la lutte fratricide prend le peuple en otage. L'histoire politique du peuple malgache est celle d'un pays privé de ses droits et où la communauté internationale a aussi sa part de responsabilité, comme l'affirme le père Sylvain Urfer. Ce jésuite vit sur l'île depuis 1974. Il a créé le CEFAFI, un observatoire de la vie publique.
Il y a comme une communauté internationale a certainement une responsabilité importante. Le fait de déléguer la SADC, la communauté économique de l'Afrique australe, pour gérer et piloter le cas de Madagascar est tout simplement, excusez-moi, une aberration. Ça nous fait quand même un peu bizarre d'entendre des leçons de démocratie venant du Congo Kinshasa, venant du Swaziland ou de Mugabe au Zimbabwe. Et donc cette communauté internationale ne sait pas très bien ce qu'elle veut. En fait, elle est aussi très liée pour certains de ses chefs à l'ancien président Ravalomanana pour des arguments qui ne sont pas que politiques. Le changement de pouvoir ne s'est jamais fait de manière démocratique. Dès qu'un chef est en place, il verrouille pour rester. Et la seule façon de le faire partir, c'est la rue. Il y a eu en plus de ça des dérives démocratiques assez fortes que notamment l'Église avait dénoncé en son temps. Nous ne sommes pas capables encore à Madagascar de transmettre un pouvoir qu'on a reçu après avoir respecté un ou deux mandats.
Vous dites que Ange Ratzoel, tout comme Marc Ravalomanana, ces deux camps confisquent véritablement le débat politique et que les Malgaches aspirent à voir émerger de nouvelles figures politiques. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en 2012, fin 2012, de voir émerger ces figures ?
Oui, à condition de ne pas rêver encore, une fois de plus, à un homme providentiel. Il faudrait que ces gens-là s'en aillent. Il vaudrait mieux un homme médiocre qui respecte les institutions qu'un homme providentiel démagogue qui, finisse par décevoir tout le monde au bout de 2 ou 3 ans. Mais je voudrais revenir sur cette crise. Elle est plus large et plus profonde. C'est pas seulement une crise politique. C'est une crise de la société. C'est toute la société qui est en train de changer, de muter. Elle sort d'une société traditionnelle pour entrer dans une société moderne. Et à la clé de tout ça, il y a le rejet des contraintes de la société traditionnelle qui empêchent les personnes de s'émanciper, qui empêchent l'autonomie de la personne. Et on est dans ce passage qui va durer encore 1 ou 2 générations, où les plus jeunes perdent leurs repères parce qu'ils n'ont pas de valeur. Et ça, je crois qu'il faut être très patient, ne pas penser que ça va être réglé demain.
Quand vous évoquez une solution malgache pour sortir par le haut de cette crise, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Il faut sortir de ce tête-à-tête entre les deux et il faut que ce soit l'opinion malgache qui oblige les deux à renoncer parce que l'un et l'autre, en termes de droit, ne peuvent pas se présenter. Ce serait une solution à la malgache parce qu'elle impliquerait que chacun des deux, par déférence pour l'électeur, se retire, sachant qu'il a des choses à se reprocher. Un des points, disons, ici, qui bloque beaucoup aussi, j'allais dire, c'est quand même le problème de l'impunité. Les gens en ont assez de voir les politiciens s'auto-amnistier à longueur de régime politique et revenir pour faire les mêmes bêtises. Et ça, vraiment, ça suffit. Comment faire passer ça en pratique, c'est difficile. Mais il y a aussi une complicité de la communauté internationale par rapport à ça. Qu'on puisse amnistier des détournements massifs d'argent public sans que, bon, finalement, ça ne dérange personne. Alors que le vendeur ou la vendeuse qui vole un yaourt fait 6 mois de prison, ça n'est plus tolérable, vous voyez.
Le père Sylvain Urfer, interrogé par Olivier Bonnel. Un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. La deuxième assemblée de patriarches et évêques catholiques du Moyen-Orient s'est achevée ce mercredi. Un document a été rédigé suite à cette rencontre qui s'est déroulée à Harissa au Liban. Dans le texte, les chefs spirituels du Proche-Orient appellent à trouver finalement une solution juste et pacifique à la question palestinienne. Ils mettent également l'accent sur la situation en Syrie, des chemins de réconciliation et de paix qui garantissent à tous la liberté et la sauvegarde de leur propre dignité humaine doivent être trouvés, insistent les participants à l'Assemblée. Un troisième point s'attarde également sur la condition des chrétiens au Moyen-Orient. Les chefs des églises sont invités à intensifier leur communion et une pleine collaboration afin de favoriser la pérennité de la présence autochtone des chrétiens au sein des sociétés arabes. L'appel s'adresse à cet égard également aux musulmans, appelés à concourir à la sauvegarde des pleins droits de leurs compatriotes chrétiens, reconnaissant une citoyenneté commune et partagée. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo plonge toute la région du Kivu dans la détresse. Pour y faire face, les organisations humanitaires sur place sont nombreuses. Parmi elles, la Caritas est l'une des plus actives. Restée présente à Goma quand la ville fut prise et occupée par les forces rebelles du M23 en novembre dernier, la Caritas Congo mène un travail considérable pour soulager la souffrance des habitants de la ville ainsi que toutes les personnes déplacées à cause des combats. Mercredi, à la fin de l'audience générale au Vatican, Benoît XVI a lancé un appel solennel pour la paix et la réconciliation dans cette région meurtrie. Le cardinal Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa et président de Caritas Internationalis, présent en ce moment à Rome, en est d'ailleurs très reconnaissant. Xavier Sartre l'a rencontré, on l'écoute.
Naturellement, comme le Saint-Père a dit hier, la préoccupation plus grande est pour le Congo, parce qu'il y a peut-être une guerre qui se prépare. Et ça n'est pas bien pour rien, pour le Congo, pour Ouganda, pour Rwanda. Alors, c'est une guerre seulement d'intérêt monétaire, parce que les minéraux de ces régions sont abondants. Alors, nous prions et nous travaillons même pour aider la population qui a commencé à quitter la place.
Est-ce qu'il y a déjà un plan que vous avez organisé, une action précise que vous préparez ou que vous développez sur place?
Naturellement, nous travaillons en coordination avec les Caritas et nationales. Alors, ce sont eux qui ont préparé le plan. Nous cherchons le support dans les autres Caritas internationaux. Dans ces moments, il y a un appel d'émergence pour quelques caritas d'autres pays pour récolter et des matériaux.
De ce que vous avez pu entendre sur place de la Caritas Congo et notamment de la Caritas Kivu, est-ce qu'ils vous ont demandé quelque chose de précis? Est-ce qu'ils demandent une aide, un soutien ne serait-ce que moral?
Il est nécessaire le soutien moral, mais même le soutien politique. Parce que nous avions en novembre une grande réunion de tous les évêques, présidents du Caritas Afrique, et il était une bonne réunion, mais il faut au niveau politique d'appuyer spécialement les efforts des Nations Unies pour le développement de la paix.
De ce point de vue, l'appel lancé mercredi lors de l'audience générale par le pape est important?
Oui, très importante, parce que la voix du pape, spécialement dans les catholiques d'Afrique, l'Église catholique grandit dans l'Afrique et la voix du pape est très importante. Nous sommes très reconnaissants dans ces messages que le Saint-Père a envoyés.
Le cardinal Maradiaga, président de Caritas Internationalis, au micro de Xavier Sartre. Par ailleurs, les évêques congolais ont publié mercredi un message appelant à l'unité nationale du pays. Préoccupés par la montée de violence dans l'est du pays, ils dénoncent une gouvernance qui ne répond pas aux attentes de la population. Ils désapprouvent également le recours aux armes et surtout ils remettent en cause le rôle de la force militaire de l'ONU. Malgré les promesses très fermes de la MONUSCO, affirme l'épiscopat congolais, le territoire de Rutshuru et la ville de Goma n'ont pas été efficacement défendus, ni la population civile intégralement protégée. Ainsi s'achève ce magazine. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de la rédaction.